parfois ça déborde un peu. Mais on décortique, et Martine Orange le fait avec beaucoup de talent, le système qui s'est beaucoup développé dans les années 80, de ces grands patrons qui ont fait fortune à la barre des tribunaux de commerce. Et selon un arrangement assez simple, en fait, avec d'un côté la complicité d'une banque, en l'occurrence, si on prend le cas de Bernard Tapie, c'est une filiale du Crédit Lyonnais, dont le directeur est également le président du tribunal de commerce de Paris. Et le troisième personnage, c'est un avocat d'affaires qui est aujourd'hui très connu et qui est un expert en montage financier qui s'appelle Jean-Louis Borloo. Et à l'époque, donc Tapie, Borloo et Despessailles, donc le président du tribunal de commerce, montent un système par lequel le président du tribunal de commerce repère les groupes en déclin, mais qui ont encore dans leur périmètre des actifs tout à fait valorisables. Il passe donc en procédure de liquidation. Tapie les reprend très facilement. Il liquide toutes les branches pourries, en général avec des subventions de l'État pour financer les licenciements. Il valorise les quelques pépites à valoriser et il les revend très vite. Et Tapie va construire sa fortune là-dessus, exactement comme Bernard Arnault ou François Pinault, on l'a oublié. Alors la différence, c'est que Tapie n'a pas de vision industrielle, il veut pas bâtir un groupe cohérent, là où des gens comme Bernard Arnault et François Pinault vont bâtir des groupes avec une vraie logique industrielle, Arnault dans le luxe, pour l'exemple.
Période suivante, on arrive en 97, là, c'est ça ?
Absolument. Après la période des années 90, c'est la mondialisation. Voilà, toute cette période durant laquelle, alors là, il y a un double mouvement, en fait. Il y a un mouvement de régulation, notamment parce qu'entre la fin des années 80 et le début des années 90, il y a tout un tas d'affaires politico-financières qui éclatent. Et donc, derrière, il y a une réaction normative. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même tellement voyant et scandaleux que là, les politiques décident quand même de mettre un peu le haut là. Mais parallèlement, il y a tout un tas de nouveaux mécanismes qui se développent dans le cadre de la mondialisation, qui vont être encore, d'une certaine manière, encore plus pervers, parce que ça va donner une logique à la financiarisation de l'économie qui ne va plus s'arrêter, qui va s'emballer en quelque sorte.
Erwan Sesnek, vous êtes arrivé plus tard. La question qu'on posait au départ, est-ce que vous croyez qu'on peut moraliser le capitalisme, puisque c'est ça votre point de départ,
non.
Et ça va être ça notre point d'arrivée.
Non, absolument pas. Notre livre parle effectivement beaucoup d'arnaques, de combines, mais je pense que notre livre parle de l'économie et du capitalisme comme les entrepreneurs en parlent entre eux en privé. Faut pas se voiler la face. Certains vont lire le livre avec régal, où ils vont se dire, mais ils se sont complètement plantés, ces pauvres, c'était encore plus compliqué que ça. Mais ils vont pas tomber du ciel. Enfin, il faut vraiment bien distinguer le patron d'une petite PME de plasturgie dans l'Ain des gens dont on parle. Lui, il a la tête dans le guidon, il essaie de tenir sa boîte.
Oui, et puis il va servir de caution aux autres.
Exactement. C'est comme dans le monde.
C'est le petit gars qui se débrouille dans son coin, qui fait ce qu'il peut avec ses salariés.
Lui n'a rien à voir avec ça. C'est un monde qui est totalement étranger et qui cautionne pas. Les petits patrons de PME ont une image désastreuse du MEDEF en France. Hein, faut pas se le cacher.
Vous avez rencontré ces patrons au cours de vos enquêtes.
On a pu en rencontrer un certain nombre, effectivement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, certains parlent, hein, bien sûr. Alors Laurence Parisot, le président du MEDEF a refusé de nous rencontrer, hein, c'est pas faute de l'avoir sollicité. Mais sinon, bien entendu, c'est vrai que l'affaire de la caisse noire de l'UMM a d'une certaine façon aussi délié certaines langues. Parce qu'on voit bien quand même derrière l'affichage public, d'une affaire que tout le monde a l'air de découvrir tout d'un coup, il y a des enjeux très importants derrière, il y a des règlements de compte autour de prise de pouvoir. Donc c'est vrai qu'on a peut-être bénéficié aussi de ce concours de circonstances-là.
On a l'impression quand même, en vous lisant, il y a quand même pas mal de choses qu'on savait déjà dans votre somme, là, hein, les affaires Tapie, les affaires UMM, etc. On a l'impression qu'on n'a pas prise là-dessus. Hein. On parlait du pouvoir des syndicats, qui est effectivement affaibli ou faible, en tout cas aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'y peut rien. On a l'impression que, après tout, à quoi bon savoir tout ça ?
Non, mais comme le disait Erwan tout à l'heure, c'est vrai que quelque part, c'était un petit peu la défaite des contre-pouvoirs. Hein, des contre-pouvoirs politiques, des contre-pouvoirs syndicaux, des contre-pouvoirs journalistiques. C'est aussi ça qui a peut-être un petit peu derrière.
Enfin, la brigade financière est quand même de perquisitionner chez quelques syndicats. Tout de même, c'est pas désespéré. Et puis, c'est peut-être pas un combat qu'on peut clore une bonne fois pour toutes, mais il est nécessaire et vital d'en parler et d'informer les gens. Ça choque heureusement, encore un peu.
Mais le combat, quelqu'un comme Alain Minc le poursuit. Hein, pour Alain Minc, ce n'est qu'un début, il continue le combat. Et c'est le début de votre bouquin. Parce que vous commencez par un courrier qu'Alain Minc adresse à ses amis patrons en leur disant « Est-ce que vous vous rendez compte de la situation ?»
La situation est critique, il sonne l'alarme.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez... Vous pensez qu'il se fout du monde ou c'est vrai? Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'est rien passé pour eux, pour vos patrons, là. Cette crise financière, ils s'en sortent très bien.
Alain Minc, c'est...